Bonjour, bienvenue dans cette table ronde où nous avons le plaisir d'être. Je commence par le côté droit, à gauche pour vous, Jean-Pierre Andrevon, dont je ne citerai pas tous les ouvrages, puisqu'il a écrit plus d'une centaine de romans, une quantité incalculable de nouvelles, et qui porte avec persistance une étiquette écologiste, ce qui nous situe tout de suite au cœur du débat, et je pense que ce sont des questions dont on parlera pas mal. Jean-Pierre Andrevon a écrit de la science-fiction et du fantastique. Il a écrit aussi d'autres choses, des thrillers, il a écrit pour la jeunesse. Mais je crois que ce qui est au cœur de notre sujet et qui mérite d'être cité, ce sont le travail du furet à l'intérieur du poulailler, par exemple, ou le temps des grandes chasses, le monde enfin. On pourrait parler aussi des trois anthologies Retour à la Terre et de pas mal d'autres ouvrages. À côté de Jean-Pierre Andrevon, Sylvie Denis. Alors, Sylvie Denis est vraiment quelqu'un qui a des activités et des talents multiples dans les domaines de l'imaginaire, puisqu'elle a à la fois écrit des romans, des très beaux romans pour adultes, elle a écrit des nouvelles, mais elle est aussi auteure jeunesse. Elle est une anthologiste remarquable et remarquée. Elle a coordonné différentes anthologies, mais elle a aussi été l'une des créatrices de la collection Cyber Dreams, qui a fait connaître de grands auteurs. Elle est traductrice, elle écrit des essais, des critiques, et si j'ai cité ces anthologies, c'est aussi à cause des préfaces qu'elle y a intégrées et qui méritent vraiment la lecture. Donc, Sylvie Denis a écrit un grand space opéra chez La Talente, La Saison des Sages, qu'on vous recommande bien évidemment. Elle a écrit Haute École, Jardin virtuel, Pèlerinage, avec des nouvelles. Voilà, on va demander à Sylvie Denis comment elle veut se situer dans ce débat, puisqu'elle, justement, ce n'est pas toujours cette étiquette écologiste qu'elle porte, mais que souvent, on note son intérêt pour les technosciences, mais pas seulement. Et à gauche, le couple de la science-fiction inséparable, mais très complémentaire, Claire et Robert de Belmas. Donc, déjà, leur formation, leur cursus est très différent, puisque Claire est agrégée de lettres, alors que Robert Belmas est le plus dur des scientifiques, puisqu'il est docteur en physique atomique. Ils ont des activités qu'il est plus facile de relier que ces deux aspects scientifiques dont je viens de parler. Ce sont des grands randonneurs. Je crois que vous vivez plus à la campagne qu'à la ville. Et vous écrivez ensemble. On citera par exemple le cycle des chroniques des Terres mortes, un cycle dans lequel il y a à la fois des romans et des nouvelles, le cycle des hypercités, Épicentre, qui est ici. Et d'ailleurs, je crois que le dernier volume du cycle des chroniques des Terres mortes, les mémoires des Terres mortes, sort pour les Imaginales, donc maintenant, en ce moment présent. Et c'est la première fois que vous avez l'occasion de le voir. Donc, notre table ronde, je vous en rappelle l'intitulé, nous allons essayer de voir quelles sont les différentes manières de lui trouver une signification. Retour à la Terre pour un futur à échelle humaine. Je crois que je vais commencer par vous demander quels sont les futurs dont vous avez envie de rêver et si vous considérez qu'ils sont plus proches de la Terre, donc peut-être plus loin de la ville, et s'ils sont à échelle humaine. Et c'est quelle taille une échelle humaine? Je vais peut-être commencer par Jean-Pierre Andrevon. Jean-Pierre, ça t'inspire comme question?
C'est une vaste question et qui mériterait sûrement de vastes réponses. Quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Et comme disait le chef indien, en bien mauvais état, déjà ça, on peut en être sûr. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. L'effet de serre a été prédit par. Bonjour, merci.
Non, non, on n'a pas de soucis.
Comme une interférence.
Voilà. Nous sommes légèrement perturbés.
Voilà.
Merci beaucoup. Donc, Jean-Pierre, je crois qu'on peut reprendre.
Oui, on peut reprendre, oui.
On fait ça, on fait 50 pentes.
À peine, voilà. Je crois que c'est le seul sujet qui peut nous préoccuper, pour nous interpeller. Je veux dire, non seulement en tant qu'écrivain de science-fiction, en tant que lecteur de science-fiction, mais tout simplement en tant que citoyen, parce qu'on est tous des citoyens. On habite tous la même planète, dont on ne pourra pas s'échapper jamais, contrairement à ce que prétend la science-fiction. Il faudrait 60 000 ans pour arriver à l'étoile la plus proche, dont on n'est pas sûr qu'elle possède une planète habitable. Mars, peut-être en 2035, mais qu'est-ce qui peut se passer depuis 2035, on n'en sait rien. Donc, il ne faut pas se faire des illusions. Les autres mondes, les autres planètes, c'est, et ça reste, et ça restera du domaine de la science-fiction. Donc, reste la Terre. Qu'est-ce qu'on en fait? Elle est très, très dégradée, hein, vous le savez comme moi. On l'a toujours, on l'a. Ça fait des bulles d'air industriel, hein, des physiciens, des chimistes ont très bien compris ce qu'allait se passer avec la combustion du charbon, etc. Qui lance des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et puis après, ça, une certaine prise de conscience s'est accélérée, disons dans les années 60, hein, autour des mouvements étudiants et autres des années 68. Mais qu'est-ce qu'on fait, vraiment pour arranger cette situation, pour y porter remède? Rien. Vraiment rien. Je dirais même sans pire. Pourquoi? Parce qu'on est, on est soumis à la loi du profit, hein, du capitalisme planétaire, qui ne fait que croître et embellir avec des inégalités qui progressent entre les pays, hein, aussi bien dans ce qu'on appelle les pays émergents, comme le Brésil, ou l'Inde, ou la Chine, que dans les vieux pays industrialisés, comme notre Europe, pour laquelle vous allez voter demain, bien sûr, vous voulez les États-Unis. Donc voilà, on est dans une situation critique, mais vraiment, hein, vraiment. Et on me dit souvent, non, vous êtes trop pessimiste. Non, non, je ne suis pas pessimiste, je suis lucide, je suis dans les chiffres, accessible pour tout le monde sur Internet, les rapports du GIEC, etc. Donc, la science-fiction, qu'est-ce que c'est la science-fiction? C'est une littérature qui vise l'avenir, qui essaye de décrire un avenir possible, un avenir probable. Et qu'est-ce qu'on peut faire? De quelle manière peut-on écrire la science-fiction, sinon en tenant compte de ce qui va passer dans, ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, c'est-à-dire la Terre qui se dégrade de plus en plus vite, la Terre qui est maintenant soumise à l'effet de serre, hein, dont on connaît les tenants et les aboutissants, les tenants étant nous autres et notre soif d'énergie et notre production d'énergie. Et puis la population qui augmente, qui augmente, comme la souris dans le pantalon. Et tout vient de là, en fait. C'est une donnée dont peu de gens n'ont pas à se rendre compte ou se rendent pas compte, ils s'en rendent compte, mais ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas en parler, ils disent non, mais moi je veux avoir des enfants, 2, 3, 4, les autres, tant pis. Hein. L'Afrique, ah, 3 milliards d'habitants bientôt, mais l'Afrique, oh là là, si on est immondiste, il ne faut pas en parler, il ne faut pas vouloir dire non, les Africains, au contraire, on voudrait bien qu'ils aient le niveau de vie des États-Unis. Seulement, si les Africains, les Chinois, les Hindous avaient le niveau de vie et de consommation d'énergie des États-Unis, il faudrait 5 à 6 planètes comme la nôtre pour arriver à subvenir à ses besoins. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'en sais rien. C'est pour ça que j'ai une vision très noire de l'avenir.
Écrire des romans.
On peut écrire des romans, mais qui servent à quoi? Pas grand-chose, à se faire plaisir, parce qu'on prend toujours plaisir à écrire des romans. Mais plus c'est noir, plus c'est pessimiste, plus on se prend plaisir, parce que quand on écrit ces romans, nous, Français, de 2014, on fait ça tranquille chez nous, avec la climatisation qui marche à fond, l'ordinateur qui a les mots sur un écran, à part avoir un petit whisky, très bien. Voilà, j'ai l'air d'être aussi, d'être agressif, peut-être, mais c'est très difficile. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Alors, évidemment, on peut lire et écrire la science-fiction, mais c'est pas l'essentiel. Sartre a dit toute la littérature du monde n'empêchera jamais un enfant de mourir de faim, mais malheureusement, c'est vrai. Hein. Il faut apporter sa petite pierre, très certainement. Il y a une très belle histoire que raconte Pierre Rabhi, la Grenoble, c'est bien connu. C'est l'histoire de la forêt qui est en feu, elle a tout brûle. Hein. Et puis, tu as un petit oiseau, quand même, qui est en dehors de la forêt, qui prend une petite goutte d'eau dans son bec, va la jeter sur les flammes, et puis il revient à l'hérisson, il dit, mais tu es complètement ridicule, à quoi ça sert une petite goutte d'eau quand c'est incendie, et l'oiseau lui dit, au moins je l'ai fait. Ben voilà, je crois que c'est la seule morale qu'on peut avoir, au moins, il faut le faire, ce qu'on peut faire chez soi.
Bon, Pierre et Robert, est-ce que vous arrivez à des constats aussi pessimistes? Est-ce que vous envisagez l'avenir sur ce principe-là?
Oui, tout à fait, certainement. Je pense que Jean-Pierre, tu as tout à fait raison d'être pessimiste. Nous, en tout cas, nous arrivons à peu près aux mêmes conclusions, sachant que pour sortir de là, il faudrait probablement passer par des états catastrophiques qui remettraient en question notre système actuel et permettrait peut-être, il faudrait voir ce que les gens voudraient en faire, de se réorienter vers des voies meilleures. Pour appuyer encore dans le sens où ça fait mal, si je puis dire, quelques chiffres. À l'heure actuelle, en France, 90% des cours d'eau sont pollués. Au sens où ils ne peuvent pas, ils ne sont pas aptes à la consommation où ils contiennent des substances trop toxiques pour nous. 50% des eaux profondes, autrement dit des nappes, sont également polluées. C'est quand même extrêmement grave. Et tout ça, ça vient de quoi? Eh bien, ça vient de ce retour, ça ne vient pas du retour à la Terre, mais ça vient en grande partie de l'industrie, hein, de la course au profit, de la course à la croissance, de comportements totalement irraisonnés, et ça vient aussi, il ne faut pas l'oublier, de l'agriculture elle-même. Nous habitons, Claire et moi, dans un endroit agricole, et il y a la forêt à côté, c'est joli, on va se promener, on fait de la randonnée, il y a des champs autour, c'est très joli, des champs de blé, quand ça roussit, là, vers le mois de juin, c'est très agréable. Mais j'ai coutume de dire, un peu à titre de provocation, aux gens qui viennent nous rendre visite à l'occasion, je leur dis, vous voyez, c'est joli, là, oui, c'est pas mal, oui, je leur dis, ben, c'est la mort que vous regardez. Alors, ils me disent, bon, ça y est, qu'est-ce qu'il a encore trouvé? Et puis, en fait, c'est tout à fait vrai, si vous voulez. C'est tout à fait vrai, parce qu'avec une quantité croissante de pesticides utilisés à l'heure actuelle, vous n'avez plus d'animaux dans ces espaces-là. Par exemple, à l'endroit où nous habitons, et ce qui constitue quand même toute une petite région suffisamment étendue, vous n'avez plus de lapins. Plus de lapins sont morts. Alors si vous allez poser la question, qu'est-ce qui est arrivé? Vous voyez plus de lapins. Alors que quand je suis arrivé il y a 20 ans, il y en avait partout. Oh ben, ils ont pas pu une maladie, ça tu parles d'une maladie. En fait, il y a des substances toxiques qui ont été répandues pour éliminer les mulots
construit, Jean-Pierre aussi, et Sylvie, on a construit avec des petites communautés, avec des modes de vie autres. Bon, un futur, les futurs dont tu as envie de parler sont construits sur quel principe?
Le principe de base, c'est que l'homme, c'est un animal qui invente des choses. Qui invente des choses pour essayer de dépasser la condition de toute créature vivante sur cette terre qui est de survivre. Donc, jusqu'à présent, on a réussi à survivre dans des situations dans lesquelles on n'avait finalement pas grand-chose. Par exemple, moi, comme j'ai aucune mémoire des chiffres, ça va être terrible, mais pour autant, ce sera pareil, d'accord, merci. Puis il y avait un iPad, donc c'est bon. Pour prendre un exemple, la peste noire a éliminé, je ne sais plus combien, mais au moins les deux tiers de la population de l'Europe au Moyen-Âge, comment se débrouiller avec. Et si on est un milliard, ça donne d'autant plus de chances de survie, puisque de toute façon, même si on meurt plein, c'est fort dommage, effectivement, il en restera toujours. Et forcément, il faut essayer de placer les choses au niveau de l'humanité plutôt qu'au niveau, par exemple, de sa petite communauté ou de son petit pays ou de sa petite Europe. Et si on considère les choses au niveau de l'humanité, l'humanité survit. Alors évidemment, elle survit dans des conditions plus ou moins faciles, et ça, c'est pas très amusant à envisager. Et je préférerais, moi aussi, qu'on ne colle pas des pesticides partout, que les sols ne soient pas totalement appauvris en micro-organismes, parce que l'agriculture intensive, en fait, ne les préserve pas. Je préférerais que le monde ne soit pas dirigé par des grands conglomérats qui ont les moyens de prendre des décisions et de générer les structures qui font que les choses se passent telles qu'elles se passent. Mais je dois bien constater qu'il y a aussi des poches de résistance et des gens qui essaient de développer d'autres formes d'agriculture, etc. Et je ne pense pas que la solution, alors d'une part, je ne pense pas qu'il y ait une solution, parce que ça ne marche jamais, mais une solution. S'il y a des possibilités, il y aura de toute façon des gens qui avanceront des choses. On a toujours trouvé les moyens pour sortir des mers du monde dans lesquels on s'est mis. On est une créature qui survit, ni plus ni moins. Alors après, évidemment, tous les humains dans l'histoire de l'humanité n'ont pas vécu dans les conditions magnifiques et confortables qu'on connaît actuellement. C'est un fait. Et ça serait mieux si on arrivait, moi je ne pense pas que la solution soit de dire aux gens demandez-moi, décroissons, etc. Parce que ça n'est absolument pas la nature de l'humanité d'aller vers la cesse, la pauvreté, etc. Ça a toujours été le fait d'une minorité. Et c'est pas quelque chose, pour moi, c'est pas idéologiquement, c'est pas viable, ça passera pas, quoi. C'est pas la peine d'espérer que les gens ils vont demander moins. C'est pas la peine d'essayer de demander aux Chinois ou aux Africains ou aux autres de ne pas vivre comme nous et de ne pas bénéficier de ce genre de bénéficiaux, parce qu'il n'y a pas de raison. Et je pense qu'on a les moyens et on aura les moyens, parce qu'on a la cervelle faite pour ça, pour trouver des solutions. Et mise au pied du mur, on le fera. C'est pareil avec c'est très malheureux qu'en ce qui concerne le changement climatique, on ne soit pas capable d'anticiper les choses et de prendre des mesures maintenant, de les avoir prises. Il y a 15 ans, évidemment, ça aurait été mieux, mais on ne l'a pas fait. Donc ce qui va se passer, c'est que de toute façon, à un moment, il n'y aura plus de pétrole, et à ce moment-là, le changement se fera, et les gens, il y a des gens qui vont donner de l'argent et qui trouveront des moyens d'inventer des choses qu'il faudra vendre aux gens, et que les gens accepteront parce qu'il faudra le faire, parce qu'ils n'auront pas le choix, c'est tout. Et on finira par s'en sortir.
Vous êtes tous les trois d'accord sur un point, c'est que le monde dans lequel on est actuellement va changer. Je ne sais pas si les avenirs seront tous de type post-apocalyptique, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'auteur et dans vos romans, vous nous prouvez tous que même si on repart d'une autre situation très dégradée, de toute façon, on recommence à y construire et il recommence à s'y passer des choses. Donc, sous quel angle vous avez envie de prendre ces projets? projets, ces reconstructions?
D'abord, juste une petite précision, Sylvie n'a pas tort dans le fait que l'humanité a eu l'habitude de rebondir au fil du temps. Simplement, pour reprendre les exemples qu'elle a utilisés, la peste noire, pratiquement, on n'y pouvait pas grand-chose. C'était un fléau qui s'était développé et contre lequel l'humanité a plus ou moins lutté, enfin a réussi à s'en tirer. Si on avait une épidémie à l'heure actuelle qui nous tombe au-dessus, on essaierait de produire des vaccins, on essaierait de lutter par des moyens prophylactiques, et on essaierait de s'en tirer. Ce serait un ennemi extérieur. L'ennemi à l'heure actuelle, et ça aussi Sylvie l'a bien souligné, c'est qu'actuellement, les situations critiques que nous connaissons, c'est nous-mêmes qui les avons produites. Et si on avait un peu réfléchi avant, s'il y avait eu un peu d'anticipation, peut-être qu'au lieu de se retrouver dans quelques temps au pied du mur, à se dire que maintenant on crève ou on fait quelque chose, on aurait peut-être pu justement éviter au moins partiellement ce genre de situation. Bon, hier, nous avons participé à un débat sur l'énergie qui était extrêmement intéressant et où il a quand même été montré clairement qu'il y a des gens qui, à l'heure actuelle, réfléchissent de manière raisonnée, sans fanatisme, sans préjugés, sur des solutions qui pourraient permettre de faire une transition qui, de toute façon, sera toujours douloureuse, il ne faut pas se le cacher, mais qui pourrait être moins brutale que celle qui consisterait à dire bon, maintenant, notre système ne fonctionne plus, tous vos uns et d'autres. Si on peut anticiper et commencer ce système autre à le mettre en place avant, eh bien, ça sera plus intéressant. Bon, d'autre part, ce que je voulais dire, c'est que la nature a toujours montré qu'elle avait une résilience. Il y a eu des extinctions de vie très importantes par le passé. On en a recensé jusqu'à 6 grâce aux fossiles que l'on a trouvés. Et chaque fois, on a vu que la vie rebondissait, et rebondissait de manière encore plus créative que la fois précédente, c'est-à-dire que des organismes plus évolués apparaissaient après chacune de ces périodes d'extinction. Bon, il faut espérer qu'on n'en arrivera pas là et qu'on n'aura pas véritablement des extinctions de vie, mais on peut quand même garder ça à l'esprit au titre de la volonté de tempérer l'optimisme, le pessimisme dont j'avais fait preuve précédemment. Et là, je voudrais signaler quelque chose qui est peut-être méconnu, mais absolument imprévu, imprévisible en tout cas, qui est la situation qui se passe à Tchernobyl. Bon, Tchernobyl, site d'une catastrophe nucléaire indéniable, où les choses sont quand même très, très mal passées, on a évacué les gens, il y a eu tout le problème de la forêt rouge autour, où les arbres ont été carrément cramés par le flash qui a été émis. Et puis, des années plus tard, qu'est-ce qu'on voit? On voit la végétation qui repousse. Et on voit la faune qui commence à repeupler les forêts autour de Tchernobyl, et ce, d'une manière beaucoup plus importante que lorsque les humains étaient là. En gros, les oiseaux, les mulots, les autres, les cervidés ou autres, trouvent la place vide et disent « bon, ben, les humains ne sont plus là, allons-y, on s'installe ». Bon, le seul problème, c'est que si les gros flashs de radioactivité sont passés à Tchernobyl, il y a quand même des fortes concentrations en isotopes radioactifs de strontium et d'iridium. Ces isotopes se retrouvent dans, par exemple, la terre, l'herbe, dans ce que les animaux peuvent manger. Et les animaux, naturellement, les mangent. Autrement dit, eux-mêmes sont fortement irradiés, y compris de l'intérieur. Alors, à quoi peut-on s'attendre à ce cas-là? Je ne sais pas, des oiseaux à deux têtes, des mulots à cinq pattes, ou des choses comme ça. Et il y a eu toute une enquête qui avait été faite par le passé par des scientifiques américains qui allaient un peu dans ce sens-là, qui mettaient en évidence des mutations, choses comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a eu une contestation de leurs résultats, qui étaient des résultats statistiques, et après examen, cette publication qui était parue dans Nature, donc c'était pas n'importe où, a été retiré par les auteurs eux-mêmes. Et ce que l'on trouve actuellement, c'est que cette nature se montre extrêmement résiliente au sens où les organismes vivants, je parlais de mulot tout à l'heure parce que dans le film que j'avais vu, on voyait effectivement des expériences qui étaient faites sur des mulots, et bien les animaux prend l'exemple du mulot, un mulot irradié ou un mulot non irradié, eh bien, il présentera les mêmes caractéristiques en termes de vitalité, en termes de durée de vie et en termes de capacité à la reproduction, ce qui n'était absolument pas attendu. Donc, peut-être que la nature de ce côté-là nous réserve quelques bonnes surprises et pourrait nous donner peut-être un coup de main pour nous en sortir quand le bas du mur approchera.
Ici plutôt le point de vue du romancier, de l'auteur. Que font les auteurs face aux diverses situations qui ont été décrites? Ben, en fait, ils essayent d'imaginer ce qui pourrait se passer. Alors nous, pour notre part, nous avons décidé de nous faire un petit peu plaisir parce que nous avons imaginé un monde où les tendances lourdes de répartition ville-campagne qui se profilait, on va dire, au début des années 90, hein, 1990, se sont accentuées et la grosse majorité de la population, ce qui est quand même d'ores et déjà le cas, c'était 80% à l'époque, ça a dû encore augmenter, se trouve concentrée dans les conurbations, dans ce que nous appelons nous, les hypercités. Et on assiste à, non pas une désertification, parce que le terme est impropre, mais au moins à une dépopulation et une déprise des espaces ruraux. Alors, là, on s'est fait plaisir parce qu'on a vraiment imaginé un monde anciennement rural qui revient petit à petit à la sauvagerie finalement sert un peu de... Alors, c'est pas un espace idyllique du tout, hein, pour autant, c'est mon conclusion, on ne fait pas du tout d'idéalisme à ce sujet, mais c'est quand même un monde, on a baptisé Terre morte, en fait, les terres mortes pour nous, c'est plutôt les hypercités, en fait, les mégalopoles, alors que les terres mortes, comme nous le disons, les terres anciennement rurales qui sont laissées à l'abandon, c'est un espace de vie à peu près comme l'ère de Tchernobyl à l'heure actuelle, sauf qu'il n'y a pas eu de catastrophe nucléaire. Voilà, alors là on peut dire qu'on s'est fait plaisir et ce qui se profile maintenant, c'est à la fois conforme à ce que nous avons prévu, parce qu'effectivement, il y a malgré tout une réduction des espaces ruraux cultivés au profit de la forêt. La forêt a été en France, je veux dire, au niveau de l'Europe, je pense, au niveau de l'Europe déjà, a été en constante expansion depuis, on va dire, la fin de la dernière guerre. Et qu'on assiste quand même à des phénomènes de dépopulation, en gros dû au sud d'une ligne Bordeaux-Nancy. On commence déjà quand même à voir des phénomènes de disparition des services publics, dans médicaux, même à l'endroit où nous habitons. Alors, le paradoxe, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui font construire, c'est ce qu'on appelle couramment la réurbanisation, qui font construire des maisons individuelles dans les lotissements communaux, etc., dans ces zones dont nous imaginons qu'elles pourraient revenir, devenir des terres mortes. Pour le moment, ce phénomène, il y a une espèce de front, de lutte entre la tendance à la dépopulation, à la désertification et à la disparition. disparition des services et le mouvement des gens pour revenir vers ces espaces.
C'est pas vraiment une opposition en ce sens où ces gens qui viennent s'établir autour de petites villes, de bourgs, qui trouvent leur intérêt dans le fait de créer des lotissements autour, ne serait-ce que pour avoir des impôts locaux. Et les gens viennent s'installer là, mais ils ne vont pas s'installer dans la campagne dans la campagne elle-même, ils ne vont pas contribuer à peupler véritablement la campagne. Ils s'installent autour de zones urbaines qui existent déjà.
Et toi, Jean-Pierre, de quoi tu rêves? Est-ce que c'est d'une terre débarrassée des villes et des hommes où la nature reprend ses droits, de ses droits, redevient sauvage? Enfin, le monde enfin, c'est quand même un petit peu ça. Vois-tu d'autres rêves dans lesquels les humains ont leur place?
Non, mais je ne rêve pas, je cauchemarde. Oui, le monde enfin, c'est une situation romanesque, effectivement, où la population disparaît. Il y a une première épidémie qui éradique la moitié de la population terrestre, une seconde. Il ne reste plus que quelques dizaines de personnes, puis à la fin, il ne reste plus que quatre couples.
Donc,
évidemment, c'est une situation à la Robinson Crusoe et à Tarzan dans sa jungle qui est romanesque, qui est intéressante à écrire et à décrire, certainement. Mais ce n'est pas une solution pour nous autres. Donc, quand j'entends Sylvie Denis dire oui, ben, on va tous mourir, mais après, ce sera mieux. Ce sera quelque chose de vivant. Ou peu importe sa théorie de Gaïa, la terre, ou les extinctions cycliques, il y a toujours quelque chose après. Oui, on s'en fout de ce qu'il y a après, mais c'est nous, notre vie à nous, qui ne sait pas ce qu'il y aura après. Alors, on va mourir dans des conditions atroces, on ne pourra plus respirer, mais dans 100 000 ans, la terre survivra. On s'en fout totalement de ça, c'est romanesque, c'est encore. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, moi j'en... Bon, j'en sais rien. Il y a une phrase d'Arthur Clarke, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui a dit les 100 prochaines années, ça va être dur, mais après, ça ira mieux. Donc, c'est une très belle phrase, mais on s'en fout complètement. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va faire dans 10 jours, dans 10 ans? C'est ça notre problème, quoi. Et c'est vrai qu'il y a la désertification qui s'accompagne de l'accroissement exponentiel des villes. C'est pas non plus une solution. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On est content qu'il y ait de la nature sauvage, mais qu'il n'y ait plus de personne, qu'il n'y ait plus de paysans pour cultiver. C'est pas non plus une solution. Quelle est la solution? C'est qu'effectivement, pourquoi il n'y a plus de. En 1914, au début du déclenchement de la Première Guerre mondiale, il y avait à peu près 50% de gens qui vivaient de la terre, de paysans qui vivaient de la terre. Aujourd'hui, il y en a entre 3 et 4%. 3 et 4%. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de chevaux, parce qu'on met des pesticides, parce qu'on prend le roi avec des tracteurs, parce qu'il y a des agricultures extensives. C'est une solution? Non. Quelle est la solution? Revenir au petit lopin de terre où chacun cultivera? J'en sais rien, peut-être. Non, mais ça n'arrivera pas de toute façon parce que ce n'est pas possible. C'est pour ça que la solution, elle est très. D'une part, elle est démultipliée à l'infini parce qu'il y a des tas de micro-situations. Il semble que des micro-solutions, mais là, c'est des amoissures. Je ne sais pas, quand on me dit quel avenir tu vois à la Terre, moi je ne le vois pas, parce que ce qui se passe dans 10 ans, on n'en sait strictement rien, on ne sait pas. Et dans 20 ans, c'est pire, et dans 30 ans, c'est pire. Alors on peut tirer des plans sur la comète, effectivement, on va prendre conscience, il y aura peut-être des pétrole, on fera des aérogénérateurs, mais il y a des résistances partout, quoi. C'est not in my backyard, not in my backyard. On veut bien qu'il y ait des aérogénérateurs, mais surtout pas à côté de chez soi, parce que ça fait du bruit, parce que ça effraie les oiseaux. Vous voyez, c'est comme ça. Chacun, si on est arrivé à ce point de crise, c'est qu'il y a un égoïsme individuel, non planétaire. Chacun veut vivre bien dans son coin, mais dès qu'il y a des solutions, ça fait un tout petit peu mal, mais il n'en veut plus, quoi. Alors, il y a encore une phrase que j'aime bien, qui dit « On sera forcé de faire bientôt ce qu'on n'accepte pas de faire volontairement aujourd'hui. » Elle est là, la concession, elle est là. Alors, la solution... C'est pas à nous, écrivains, de vous l'apporter, c'est à vous tous, hein, qui êtes des citoyens, qui êtes des vivants, et peut-être des survivants bientôt. Voilà quoi.
Oui, mais je pense qu'à partir du moment où l'histoire de l'énergie, à partir du moment où le prix de pétrole commencera à vraiment augmenter, parce qu'on aura dépassé pas encore plus que maintenant, quoi. Quand on aura dépassé le pic de production, il y en aura de toute façon. Les grandes
chose. Il faut bien que leur activité continue, il faut bien qu'ils continuent à gagner du pognon, et il faudra bien qu'ils trouvent une activité. Donc à ce moment-là, et à mon avis c'est déjà le cas, sauf qu'on ne le sait pas nécessairement, on développera ce qu'on sait déjà théoriquement faire, mais qu'on ne fait pas, le solaire, l'éolien, l'énergie marémotrice, toutes ces choses-là. Moi je pensais, honnêtement, quand je lisais Brunner et Entrevent et Jury dans les années 70, moi je pensais qu'on aurait des panneaux solaires et de l'éolien partout. Maintenant, bon, au plan en temps de l'an, quoi, ça aurait mis un petit peu de temps, hein, beaucoup de temps. Hein. Alors, le mouvement des sociétés, malheureusement, n'est pas le mouvement de l'esprit. L'esprit peut envisager des choses, et l'esprit a besoin d'envisager des choses autres que les perspectives, justement, à court terme. Parce que si on n'imagine pas des perspectives à long terme, et si on n'imagine pas, il faut penser le plus pour avoir le moins. Si on ne pense pas le plus, c'est-à-dire une survie correcte à moyen terme, c'est sûr que on ne fait rien, quoi.
Alors, puisqu'on est désespérément en train de chercher des leviers d'action, des moyens d'action, des stratégies, vous nous parlez beaucoup en termes globaux de situation générale de la planète, de nécessité d'une prise de conscience générale. Mais dans l'intitulé du débat, il me semble qu'il y a aussi une autre manière d'envisager la question, c'est est-ce que vous pensez qu'il est convenable d'essayer de faire des choses à petite échelle, à l'échelle humaine, dans des communautés éventuellement qui fonctionneraient en autarcie, avec des modes de vie qui seraient forcément différents de ceux qu'on a maintenant? Mais est-ce que c'est une bonne manière de prendre le problème, de le dire? C'est Jean-Pierre Andrevent qui le disait tout à l'heure au début du débat, chacun à son niveau, avec la métaphore du petit oiseau, avec sa lutte de pluie. Est-ce qu'il faut prendre le problème par le bout le plus local et le plus proche, ou dans son ensemble, et en faire tout de suite une question politique? Comment vous le voyez? Qui veut répondre à ça?
Bon, je peux essayer de dire quelques mots. Oui, ça apparaît une solution viable. Ça va être ça, d'ailleurs, été évoqué dans le débat sur l'énergie d'hier, hein, avoir des petits groupes organisés qui produisent leur propre énergie. Bon, ceci dit, il faut tout de même ne pas avoir ça comme une autarcie complète et avoir des groupes qui sont finalement dissociés les uns des autres. Ça va se faire de manière plus harmonieuse, et si ces unités existent, et là encore, pourquoi pas, ça peut être une excellente solution. Il faut une certaine coordination de leur activité, mais imaginons une des unités qui a des problèmes de panne ou autre, comme ça, il faudrait qu'elle puisse être secourue par une unité voisine, par exemple.
Je viens d'avoir cité une couche d'optimisme.
Vous voyez qu'on peut quand même trouver beaucoup plus pessimiste que moi encore.
On est quand même prisonnier des structures existantes. Prenons une raison personnelle. Quand je suis arrivé à Londres, je me suis dit, tiens, je vais regarder s'il y a comme un map. Alors, vous devez savoir ce que c'est qu'une map. Et le problème, c'est que j'ai regardé des maps où il y en avait, etc. Et le seul moyen que j'avais pour pouvoir aller, mettons, un jour par semaine ou deux, pour là où on pouvait avoir son petit panier de légumes et tout ça, c'est avoir une bagnole. Or, j'ai pas de bagnole, mais j'ai pas les moyens d'en acheter, j'ai pas envie d'en acheter une. Donc voilà, c'est tout.
C'est
juste pour dire que les choses sont pas aussi
simples. Pour vous prendre la réponse.
Effectivement.
Il y a des abats qui font des tournées, hein. Donc si on a la chance d'être sur la tournée.
Alors, il y a aussi un problème qui est, à mon avis, un peu franco-français, là, c'est que en France, chacun a tendance un peu à tirer de son côté. Mais j'ai vu des reportages, par exemple, sur Arte, où il y a toujours des documentaires tout à fait intéressants, sur, dans d'autres pays du Nord, par exemple, des coopératives, des structures qui vont loin, de production et de partage sur une communauté assez large, et qui ont créé leur propre monnaie. Alors, il paraît qu'il y a un nombre incalculable de monnaies locales de pour le monde, mais c'est quelque chose comme 4 000 ou quelque chose comme ça. Ça le chiffre m'avait effaré. C'est de l'ordre de plusieurs milliers en tout cas. Alors, il paraît qu'il y en a quelques-unes en France, mais c'est quelque chose quand même qui est assez marginal encore et pas très connu, hein, ce type d'association et de mise en commun de ressources comme ça sur des circuits alors très courts. Ça marche, clairement. Mais chez nous, effectivement, il y a quand même, je crois, pas mal de résistance dans les intervenants précédents parlaient là.
Je crois qu'il y a des idées, des propositions qui commencent à arriver de la salle. Donc, si vous avez envie, on peut prendre un petit moment comme ça. Vous avez peut-être envie aussi d'interroger les auteurs sur leur œuvre, dont ils ont finalement assez peu parlé dans la première partie de la discussion. Ils ont parlé de leur panier de légumes. Donc, si vous avez quelque chose sur lequel vous avez envie de rebondir, on peut le faire maintenant. Oui.
Oui, enfin, on propose un projet qui m'intéresse sur des sujets qui me donnent envie d'écrire. C'est a priori, oui. Il n'y a pas de raison. Les seuls obstacles, c'est toujours le temps et la disponibilité. Mais en ce moment, j'ai des choses en chantier, notamment une nouvelle qui tourne autour de ce genre de sujet, donc ils sont toujours là en fait, hein. Ils sont toujours présents.
Je termine juste parce que Sylvie ne m'en a pas parlé, mais il y a d'autres manières d'aborder la question et de la prendre par exemple sous l'angle de l'éducation. C'est aussi préparer les générations futures à mieux analyser et faire face aux problèmes. Donc l'éducation, c'est un thème dont tu as très bien parlé dans Haute École, qui est un roman magnifique. Et ça aussi, c'est une contribution à la recherche de solutions. Si la génération actuelle n'en est pas capable, préparons au moins la suivante à être un peu plus intelligente que nous.
Oui, juste un complément. Donc, par exemple, dans tout ce qui concerne le cycle de Terre morte, ou bien dans le roman Épicentre, nous avons déjà traité ce genre de sujet où on voit une communauté qui s'organise de manière assez efficace, d'ailleurs, sur le territoire français, mais qui dispose d'assez gros moyens et qui va s'organiser pour devenir complètement autarcique. Dans Mémoire des Terres mortes, nous avons traité également d'un autre genre de communauté qui est beaucoup plus traditionnel, celui
qu'on se couche avec les pouces, quand le soleil se couche. C'est pas, j'ai pas envie d'écrire ça, quoi. C'est pas. Nous autres romanciers, je pense qu'on est là pour essayer de réveiller les gens, fût-ce en les agressant, fût-ce en inventant des mondes comme ça qui s'écroulent pour en reconstruire d'autres. Est-ce que nous autres, on est capable de reconstruire un monde? J'en suis pas persuadé. Sinon, on serait pas écrivain, encore une fois, on serait politique, on se présenterait aux élections européennes, voilà. Moi, je crois que la parole est vraiment au terrain maintenant, c'est pas à la glose, à dire oh, il faudrait faire ça, il faudrait peut-être faire ci. Non, non, il faut y aller, quoi. Et en tout cas, la solution n'est certainement pas, mais alors, absolument pas, le repli sur soi-même, l'autarcie. J'aurais fait un dessin dans le premier numéro de La Gueule Ouverte, comme ça, on voit, moi, 2, 3, 68 heures dans leur petite sphère, avec leur vache, puis tout. T'as une autoroute, t'as 20 mètres, puis de l'autre côté, t'as la voie du chemin de fer, puis t'as l'aéroport à 30 mètres. Non, non. On doit apporter sa petite goutte, mais pour le collectif, on ne doit pas apporter sa petite goutte pour soi-même. Voilà. Bon. C'est ce que je peux dire.
On a encore le temps pour une ou deux questions rapides. On aimerait bien continuer, mais on a des conditions acoustiques qui sont pas terribles. Des conditions acoustiques qui se dégradent aussi vite que le climat, qui lui s'améliore un peu. Donc, on va peut-être en.